La parole des contes avec Anne Wong.
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices, et bon dimanche. Dimanche de chemise ou dimanche de pelle à gâteau, c'est beaucoup trop quand une seule suffit. Et oui, ça suffit. Depuis quelques dimanches, nous allons d'une version à une autre de ce conte type 706, La fille aux mains coupées. Nous avons vu la version de alsacienne Marianette, collectée par Paul Delarue, qui a fait un énorme travail de collectage sur le conte populaire français. Il est décédé en 1956 et avant, il avait travaillé un peu avec Marie-Louise Ténez, qui a poursuivi son œuvre après sa mort pour finaliser le tome 3. Et nous avons vu aussi la version chinoise de Blanche Xiaoping Chu, qui est maître de conférence à l'université de Rennes 2. Et nous allons maintenant voir deux versions qui se rapprochent un peu par la présence de diable et de Dieu, ce qu'il n'y avait pas dans la version chinoise. Mais toutefois, dans la version chinoise, le mot de la fin, c'est quand même l'affrontement du bien et du mal avec le bien et le mal ont à la fin leur récompense. Donc nous allons voir la version des frères Grimm et la version d'Henri Pourrat. Pour Henri Pourrat, ce sera pour dimanche prochain. Dans ces deux versions, le père vend sa fille au diable. Dans un cas, il croit vendre son pommier, une sorte de malentendu. L'autre sait parfaitement qu'il vend sa fille en toute conscience au diable pour simplement avoir suffisamment d'argent pour jouer au jeu. Et l'eau purificatrice à la fois empêche le diable d'emporter la jeune fille et à la fois l'eau purificatrice va redonner vie à ses mains tranchées. Et le diable, dans une version, demande au père, parce que la fille est trop propre et donc il ne peut pas l'approcher, il demande au père de lui trancher les mains et le père le fait. Et dans une autre version, c'est le diable lui-même qui est excédé par les comportements de la jeune fille qui lui coupe les bras. Là, carrément, ce sont les bras. De toute façon, bras coupés ou mains coupées, la jeune fille ne peut se nourrir. Donc, dans un cas, elle mange des fruits à la bouche. Et dans un autre cas, c'est assez original, c'est un chien qui va lui apporter à manger du pain. Et comme il maigrit, ça suscite la curiosité du prince qui va aller savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il part avec du pain et il est de plus en plus maigre. Dans tous les cas, elle a la compassion de quelqu'un et d'un homme en général, très bienveillant. Et si les parents s'opposent au mariage parce que leur fils ne peut épouser une invalide, de toute façon, ils n'auront pas raison. Et donc, ce prince ou ce jeune homme bienveillant épousera la fille sans main. L'histoire pourrait s'arrêter là. Happy end. Et tout va bien. Eh bien non. À chaque fois, il va y avoir un rebondissement. Une guerre se déclare. Le prince y part et ils échangent des lettres. Et là, tout va se compliquer par les substitutions des lettres adressées. Et dans le conte chinois, le motif de la substitution des lettres y est aussi. Et ainsi, cette jeune femme invalide avec enfant, eh bien, le rejet, l'exclusion s'acharnent contre elle. Mais à la fin, quand même, nous retrouverons le happy end. Alors, place au texte, les frères Grimm, la jeune fille sans main. Un meunier, qui était petit à petit tombé dans la misère, ne possédait plus rien que son moulin et un pommier, un grand pommier qui se trouvait par derrière. Un jour que le meunier était allé dans la forêt pour se couper du bois, il rencontra un vieil homme qu'il n'avait jamais vu, qui s'approcha et qui lui dit « Pourquoi t'exténuer à ce bûcheronnage, puisque moi je peux te rendre riche ? Ah, si seulement tu me promets ce qu'il y a derrière ton moulin !» Le meunier songea que cela ne pouvait rien être d'autre que son pommier, et répondit « C'est d'accord !» Et il signa un engagement écrit à l'étranger qui le reçut avec un rire sardonique et qui lui dit « Dans 3 ans, jour pour jour, je viendrai et j'emporterai ce qui m'appartient. » Et il s'éloigna. Comme le meunier s'en revenait chez lui, sa femme courut à sa rencontre et le questionna. « Mais dis-moi un peu, meunier, cette soudaine richesse dans la maison, d'où nous vient-elle ? D'un seul coup, tout est plein, les armoires, les coffres, alors que personne n'est venu apporter quoi que ce soit et que je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. » « Oh, c'est un inconnu que j'ai rencontré dans la forêt, » répondit-il. « Qui m'a promis ces grandes richesses ? Moi, en échange, je me suis engagé par écrit à lui céder ce que j'ai derrière le moulin. Oh, le grand pommier, nous pouvons bien le troquer pour cela. » « Hélas, malheureux !» s'écria la femme effrayée. « C'était le diable, et ce n'était pas du pommier qu'il s'agissait, mais de notre fille qui était derrière le moulin en train de balayer la cour. » Pieuse et jolie, la fille du meunier vécut ces 3 années-là dans le respect de Dieu et sans commettre le péché. Le délai écoulé, quand vint le jour qu'attendait le démon pour l'emmener, elle se lava des pieds à la tête et traça autour d'elle un cercle avec de la craie. Le diable apparut de bonne heure, mais il ne put pas l'approcher pour la prendre. Dans une grande colère, il ordonna au meunier « Tu tiendras hors de sa portée la moindre goutte d'eau afin qu'elle ne puisse pas se laver, car autrement je n'ai plus nul pouvoir sur elle. » Le meunier avait bien trop peur pour ne pas obéir. Le lendemain matin, le diable apparut de nouveau, mais la jeune fille avait tant versé de larmes dans ses mains qu'elles en étaient propres et pures. Ne pouvant toujours pas l'approcher, le diable, dans sa fureur, commanda au meunier « Tu lui couperas les mains, sinon je ne puis pas la prendre !»« Et comment pourrais-je, moi, couper les mains de ma propre fille ?» protesta le meunier dans son épouvante. Le malin le menaça et lui dit « Fais-le, sinon c'est toi qui me payeras et c'est toi que j'emporterai. » Le père trembla et promit qu'il obéirait. Il alla parler à sa fille et lui dit « Mon enfant, si je ne te coupe pas les deux mains, le diable m'emporte. Et moi, je le lui ai promis dans ma terreur. Oh, aide-moi dans ma détresse et pardonne-moi le mal que je te fais. » « Cher père, lui répondit-elle, faites ce que vous voulez de moi. Je suis votre enfant. » Elle lui tendit alors ses deux mains et le laissa les lui couper. Quand le diable revint pour la troisième fois, elle avait tant versé de larmes et pendant si longtemps sur ses poignets tranchés qu'ils étaient parfaitement lavés et purs. Et le diable dut renoncer, ayant perdu tout droit sur elle. Le meunier dit alors à sa fille, « J'ai gagné, grâce à toi, de si grands biens que, pour ta vie durant, je te garderai dans le luxe le plus cher. » « Ah, père, ici, je ne saurais rester. Je veux m'en aller. Les gens charitables me donneront bien mon nécessaire. » Elle se fit alors attacher au dos ses bras mutilés et partit sur la route au soleil levant. Elle marcha tout le jour sans s'arrêter jusqu'au soir. Et c'était nuit déjà quand elle arriva près d'un jardin magnifique, un parc royal, où elle vit sous le clair de lune que les arbres pliaient sous le poids des fruits. Mais elle ne pouvait pas entrer dans ce jardin qui était entouré d'eau. La faim la torturait, car elle avait cheminé toute la longue journée sans avaler la moindre bouchée, et elle pensa dans son cœur, « Oh, si je pouvais seulement entrer dans ce beau jardin et manger de ses fruits, sinon je vais mourir de faim. » Elle s'agenouilla, elle appela le Seigneur Dieu et pria, et tout d'un coup, il y eut là un ange qui pratiqua une écluse pour écarter les eaux et tenir le fossé à sec de façon qu'elle pût passer. Ainsi, elle entra dans le jardin et l'ange y alla avec elle. L'arbre qu'elle vit était chargé de tous ses fruits et c'était des poires de toute beauté, mais elles étaient toutes comptées. Elle s'avança sous l'arbre et prit une poire de l'arbre avec sa bouche, une seule poire, qu'elle mangea pour calmer sa faim, et rien de plus. Le jardinier la voyait faire, mais comme il y avait l'ange qui l'accompagnait, il crut que la jeune fille était un esprit, et il eut si peur qu'il n'osa ni appeler ni lui adresser la parole à elle. On ne parle pas aux esprits. La poire mangée et sa faim apaisée, elle alla s'étendre et se cacher sous les fourrés pour dormir. Mais le lendemain matin, quand le roi à qui appartenait ce verger y descendit et compta ses fruits, il s'aperçut qu'il manquait une poire et questionna le jardinier pour savoir ce qu'elle était devenue. Elle n'était pas tombée sous l'arbre et pourtant elle n'était plus sur l'arbre. « La nuit dernière, dit le jardinier, un esprit est venu. Il n'avait pas de main et il a cueilli la poire avec sa bouche pour la manger. »« Comment l'esprit a-t-il pu passer l'eau ? » demanda le roi. « Et qu'est-il devenu après qu'il eut mangé la poire ? » ?»« Il est venu quelqu'un du ciel, en robe blanche comme neige, qui a fermé une écluse et repoussé l'eau pour que l'esprit puisse passer le fossé à sec, expliqua le jardinier. Et parce que ce devait être un ange du ciel, j'ai eu peur d'appeler ou de demander quoi que ce soit. Et quand l'esprit a eu mangé la poire, il est reparti. Si cela s'est passé comme tu le dis, « Je viendrai avec toi veiller la nuit prochaine, » dit le roi. L'obscurité venue, le roi descendit dans le jardin, accompagné d'un prêtre qui devait parler avec l'esprit et du jardinier. Tous trois s'installèrent sous l'arbre et guettèrent. Vers minuit, la jeune fille rampa hors du fourré, alla vers l'arbre et lui prit de nouveau une poire avec sa bouche pour la manger. mais elle avait à côté d'elle l'ange tout blanc qui la gardait. Le prêtre s'avança et parla. « Viens-tu de Dieu ou du monde ? Es-tu un esprit ou un être humain ?»«
Oh, je ne suis pas un esprit, » répondit-elle, « mais une pauvre créature humaine, abandonnée de tous, hormis de Dieu. »
« Puisque le monde entier t'abandonne, » dit le roi, « moi, je ne t'abandonnerai point. » Il l'emmena avec lui dans son château royal et il l'aima de tout son cœur, belle et pieuse comme elle était. Il lui fit faire des mains d'argent et la prit comme épouse. Au bout d'un an, le roi dut partir pour la guerre. Alors il recommanda sa jeune femme à sa mère et il lui dit « Dorlotez-la et soignez-la bien au moment de ses couches. Et ne manquez pas de m'écrire aussitôt. » La jeune reine mit au monde un superbe garçon, ce que la mère s'empressa d'écrire à son fils, toute heureuse de lui annoncer la bonne nouvelle. Mais le messager qui portait la lettre s'arrêta en chemin sur le bord d'un ruisseau pour se reposer, et comme il était fatigué par sa longue étape, il s'y endormit profondément. Survint alors le diable, toujours aux aguets pour essayer de nuire à la pieuse reine. Il substitua à la lettre de la reine mère une autre lettre, dans laquelle il avait écrit que la reine avait mis au monde un monstre. Lorsque le roi lut cette lettre, quel coup ce fut pour lui et quel chagrin! Mais il n'en recommanda pas moins, dans sa réponse, qu'on soignât bien la reine et qu'on veillât sur elle jusqu'à son retour à lui. Le messager repartit avec la lettre du roi, se reposa au même endroit et s'endormit comme la première fois. Survint alors le diable, qui lui glissa une autre lettre dans sa poche, dans laquelle il avait écrit que la reine devait être tuée avec l'enfant. La reine mère, en lisant ce message, en fut si violemment épouvantée qu'elle refusa d'y croire, et écrit sur l'heure une nouvelle lettre au roi. Mais elle n'eut point de bonne réponse, puisque le diable, à chaque fois, substituait une autre lettre à la vraie dans la ceinture du messager. La dernière lettre ajoutait encore qu'il devait conserver comme preuve la langue et les yeux de la jeune reine. Mais la vieille mère pleura sur le sang innocent qu'elle eût dû verser, se fit amener une biche pendant la nuit et lui fit couper la langue et enlever les yeux, qu'elle conserva. Puis elle alla trouver la jeune reine et lui dit « Je ne puis te tuer selon que le roi l'a ordonné, mais tu ne peux, toi, demeurer plus longtemps ici. Va-t'en donc par le monde avec ton enfant et ne reviens plus jamais. » Elle lui attacha le bébé sur le dos et la malheureuse femme s'en alla tout en larmes. Elle entra dans une vaste forêt sauvage où elle pria Dieu à genoux. Et l'ange du Seigneur lui apparut pour la mener vers une petite maison qui avait une petite enseigne annonçant « On loge ici pour rien celui qui le veut bien. « Soyez la bienvenue, Madame la Reine, » lui dit une jeune fille blanche comme la neige, venue sur le seuil de la maison pour l'accueillir et la faire entrer. La blanche jeune fille défit les liens qui retenaient le petit garçon sur le dos de la jeune reine et le tint devant sa poitrine pour qu'elle pût l'allaiter. Puis elle alla coucher l'enfant dans un joli petit berceau tout près. « Et d'où sais-tu que j'étais une reine ?
lui demanda la pauvre femme. Je suis un ange envoyé de Dieu pour prendre soin de toi et de ton enfant, répondit la blanche demoiselle. Alors, la jeune reine, ancienne reine, demeura dans la maison pendant 7 ans, et elle y fut parfaitement soignée, cependant que ses mains, par une grâce de Dieu accordée à sa grande piété, lui revenaient. Lorsque le roi de son côté était finalement rentré de la guerre et avait retrouvé sa maison, son seul et son premier souci avait été de voir sa femme et son enfant. Sa vieille mère éclata en sanglots et lui dit « Comment as-tu pu, méchant, m'écrire, d'ôter la vie à ces deux âmes innocentes ?» Elle lui remit sous les yeux les 2 lettres qu'elle avait reçues, qui n'étaient autres que les lettres substituées par le démon. Et elle ajouta, « J'ai fait ce que tu avais commandé. » Alors elle lui montra comme preuve la langue et les yeux qu'elle avait conservés. Le roi se mit alors à pleurer plus amèrement encore sa pauvre chère femme et son petit garçon, si désespérément que sa vieille mère s'émut de compassion et lui avoua qu'il n'était pas mort. « Tu peux te réjouir encore, » lui dit-elle, « je ne les ai pas tués. J'ai fait égorger une biche en secret pour prélever sur elle les témoignages exigés. Mais pour ta femme, je lui ai attaché son enfant sur le dos et je l'ai envoyé de par le vaste monde en lui faisant jurer qu'elle ne revienne plus jamais à cause de ta grande fureur contre elle. Je pars à sa recherche, dit le roi, et j'irai aussi loin que l'azur du ciel, sans boire ni manger, jusqu'à ce que je les trouve, elle et l'enfant, s'il n'est pas trop tard, et s'ils ne sont pas morts de faim depuis longtemps. Il remonta à cheval et parcourut le monde pendant 7 années, visitant toutes les cavernes, les grottes et les moindres fentes dans le rocher, toujours à leur recherche, mais sans les trouver nulle part. Et il finissait par penser qu'ils avaient disparu. Jamais il ne mangea, jamais il ne but rien durant toute cette période. Dieu le soutenait. Et pour finir, il entra dans l'immense forêt où il trouva la petite maison avec l'enseigne qui annonçait « On loge ici pour rien celui qui le veut bien. » La demoiselle blanche sortit et vint lui prendre la main en lui disant « Soyez le bienvenu, sire le roi. » Après quoi elle lui demandait « D'où il venait ?»« Cela fait bientôt 7 ans que je suis en route, dit-il, à la recherche de ma femme et de notre enfant. » Mais je ne les ai trouvés nulle part. L'ange l'invita à boire et à manger quelque chose. Le roi refusa, n'ayant besoin que de se reposer un peu. Il s'allongea donc pour dormir et se couvrit le visage de son mouchoir. L'ange entra alors dans la chambre où se tenait la reine avec l'enfant. Ce garçon, qu'elle avait pris l'habitude d'appeler riche en peine. Et elle lui dit, « Viens avec ton enfant, ton mari est arrivé. » Elle vint près de lui. Comme il dormait et son mouchoir était tombé par terre, « Riche en peine, » dit-elle à son fils, « ramasse le mouchoir de ton père. » et remets-le sur son visage. L'enfant ramassa le mouchoir et le replaça sur le visage du dormeur, qui bougea, troublé dans son sommeil, et le fit retomber. Impatienté, le jeune garçon se retourna vers sa mère et lui dit, «
Maman chérie, comment puis-je couvrir le visage de mon père, puisque je n'ai pas de père au monde ? J'ai appris la prière, notre Père qui es aux cieux, et tu m'as dit alors que mon père était au ciel, et que c'était le bon Dieu. Comment devrais-je connaître un homme aussi brutal ? Ce n'est point mon père. Le roi se redressa en entendant cela et demanda à la jeune femme qui elle était. « Je suis ta femme, » répondit-elle, « et voici ton fils, riche en peine. » En voyant ses mains bien vivantes, le roi lui dit, « Mon épouse avait des mains d'argent. Ce sont mes vraies mains qui ont repoussé par la grâce de Dieu, » expliqua-t-elle, tandis que l'ange passait dans la chambre voisine et en revenait avec les deux mains d'argent pour les montrer au roi. Assuré que c'était bien là sa chère femme et son fils aimé, il les embrassa avec effusion et grande joie, tout en leur disant de quel énorme poids son cœur se sentait soulagé. C'est comme si une lourde meule avait été ôtée de sur mon cœur, leur dit-il. L'ange de Dieu les servit et les fit manger ensemble une dernière fois dans la maison de la forêt. Puis ils regagnèrent ensemble le château royal et revinrent auprès de la vieille reine-mère dans la liesse générale. Le roi et la reine célébrèrent leurs noces une nouvelle fois et ils vécurent heureux jusqu'à la fin bénie de leur pieuse existence. Je vous souhaite un bon dimanche. Et à dimanche prochain, si vous le voulez bien, pour la version d'Henri Pourrat. À très bientôt.